Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, l'histoire d'aujourd'hui est la mise au point. La revue suivante, vous allez écouter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Belgique concentre sur la coopération d'enseignement supérieur avec l'Indonésie. Le vice-ministre des Affaires étrangères, le potentiel de conflit dans la mer de Chine méridionale peut être réduit par la coopération entre les parties impliquées dans la région. Sandiaga Uno devient le conférencier au Forum mondial sur l'investissement de ICD. Vingt pays acceptent les normes halal d'Indonésie. L'Indonésie est un pays destinataire à l'expansion industrielle mondiale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Belgique intensifie actuellement ses coopérations avec l'Indonésie dans divers secteurs. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, Patrick Herman, lors de la commémoration de la fête de Roi Belge à la résidence de l'ambassade belge à Jakarta jeudi 16 novembre 2017. Dans son discours, l'ambassadeur a déclaré que l'une des coopérations actuellement concentrées par la Belgique est l'enseignement supérieur.
We have been focusing very much on cooperation with universities.
Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la coopération avec les universités, entre les universités et aussi avec Ristek Dikti. Au cours des derniers mois, un certain nombre de nos universités deviennent en Indonésie et pour faire un projet avec les universités indonésiennes. L'ambassadeur Patrick Herman a ajouté que de nombreux étudiants indonésiens sont venus en Belgique par du programme LPDP du ministère indonésien des Finances. En outre, dans le domaine de l'éducation et de la santé, la Belgique échange des informations médicales avec des hôpitaux indonésiens. Dans son discours, l'ambassadeur attend la coopération dans la recherche et la technologie avec l'Indonésie. L'agent d'études et de développement des politiques du ministère des Affaires étrangères a tenu le 27e atelier sur le conflit potentiel dans la mer de Chine méridionale du 15 au 17 novembre 2017 à l'hôtel Borobudur, Jakarta Central. Cet atelier est une initiative de l'Indonésie pour explorer les opportunités de coopération entre les parties impliquées à travers un mécanisme de dialogue. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Abdurrahman Mohamad Fahir, a ouvert l'atelier le 16 novembre 2017. Dans son discours, M. A.M. Fahir, l'Indonésie estime que le potentiel de conflit dans la mer de Chine méridionale peut être atténué par la coopération entre les parties concernées. L'Indonésie est très active pour faire face aux problèmes grâce à la création de forums locaux.
Indonesia believes the South China Sea region
L'Indonésie estime que la région de la mer de Chine méridionale doit être gérée par l'intermédiaire des coopérations entre les parties impliquées afin d'atténuer les tensions. C'est pourquoi l'Indonésie est très active dans l'incident pour résoudre le problème à la fois par le biais de la première piste et du forum à une et demi-piste. En effet, l'atelier a joué un rôle important dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les participants à travers des dialogues constructifs et des projets concrets. Selon A.M. Fahir, l'Indonésie veut apporter le potentiel de conflit de devenir une coopération dans divers projets. Cette année, il y a 8 projets des pays concernés. Ceci, bien sûr, aide l'Indonésie à faire des efforts et s'engager depuis le début à faire de la région maritime du sud de la Chine comme région pacifique stable et donner l'avantage économique. Le 27e atelier depuis 1990 s'est tenu de manière cohérente sous la forme d'une demi-piste suivie par 70 participants provenant de l'université, des chercheurs et des équipes de thèse. Les participants viennent de Brunei Darussalam, de la République populaire de Chine, des Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, le Vietnam et la Chine Taipei. Le vice-gouverneur de Jakarta, M. Sandiaga Salahuddin Uno, représentant du gouvernement provincial de Jakarta jeudi, a assisté au Forum de coopération de l'investissement, Forum mondial de l'investissement de Dubaï, les Émirats arabes unis. Selon Sandiaga Uno, il est pour la première fois que la coopération de l'investissement de Dubaï invite les dirigeants locaux de l'Indonésie. Il est devenu un conférencier dans ce forum et dans un communiqué de presse vendredi à Jakarta, il a déclaré qu'il parlait des opportunités d'investissement en Asie. Lors du forum, il a expliqué que Jakarta était une destination d'investissement potentiel en Asie. Il a transmis plusieurs choses sur le forum, telles que le développement du tourisme à Kepulauan Seribu, les transports en commun et le secteur immobilier basé sur le Transit Oriented Development. Selon Sandiaga Uno, beaucoup de parties qui sont intéressées à investir à Jakarta. La coopération de l'investissement du Forum mondial de l'investissement de Dubaï est l'un des principaux forums économiques et d'investissement dans le monde. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Institut d'évaluation des aliments, des drogues et des cosmétiques du Conseil indonésien des aliments, ou LPPOMMOI, a déclaré que les normes halal de l'Indonésie ont été acceptées dans de nombreux pays. Luqmanul Hakim, le directeur de LPPOMMOI, dans la réunion de cette institution et les entreprises orientées halal, a déclaré jeudi à Jakarta que 20 pays ont accepté le standard halal de l'Indonésie. Selon lui, il devient une occasion commune d'augmenter le commerce halal de l'Indonésie. Il invite les hommes d'affaires à superviser les produits halal d'Indonésie d'entrer dans le commerce international. Luqmanul Hakim a déclaré que la Russie avait demandé des produits halal indonésiens. Il est optimiste que l'exportation des produits halal peut augmenter le bien-être des gens. Selon lui, l'augmentation ne supprime pas l'identité originelle de l'Indonésie en tant que nation religieuse. L'Indonésie est toujours une destination d'investissement pour les hommes d'affaires étrangers qui veulent investir leur capital pour l'expansion des entreprises parce que l'Indonésie est soutenue par l'énorme potentiel de commerce. L'Indonésie possède une structure industrielle profonde, de sorte que la chaîne d'approvisionnement peut bien fonctionner. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, lors d'une visite de travail à PT Jogja Precision Technikatama Yogyakarta. Dans un communiqué de presse mercredi, il a déclaré que le gouvernement indonésien se concentrait sur la création d'un climat propice à l'investissement avec diverses mesures stratégiques, telles que l'émission du paquet de politique économique pour faciliter les affaires dans le pays. Sur la base du rapport annuel publié par la Banque mondiale lié au classement de facilité de faire des affaires de 2018, facilité de classement des affaires de l'Indonésie en 2018 a augmenté 19 classements et la 91e position à la 62e position de 190 pays étudiés. Erlangga Hartanto estime que la hausse des notations encouragera les hommes d'affaires à accroître leur investissement dans ce pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le commentaire et pour le titre « La démission de certains hauts fonctionnaires australiens à cause de la double nationalité et la stabilité gouvernementale ». Les règles sur la double nationalité à l'impact de la démission de certains nombreux de politiciens qui sont devenus des fonctionnaires de l'État australien. Il y a trois jours, la sénatrice Jackie Lambie de Tasmanie a démissionné parce qu'elle s'est avérée être également en ressortissant britannique de patrie linéaire. Le père de Lambie, qui est né en Écosse, en Angleterre, lui a valu la citoyenneté britannique comme stipulé dans la loi du Royaume-Uni. Jackie Lambie n'est peut-être pas la dernière, elle n'est pas non plus le premier fonctionnaire à démissionner en raison de la législation australienne. Certaines qui ont perdu leur position sont entre autres Matthew Canavan, ministre des Ressources et du Nord de l'Australie, a perdu son emploi. Il est le troisième officiel a démissionné en juillet. Matthew est connu pour être la citoyenneté italienne de son père. Deux membres du Parti vert australien ont également été contraints de démissionner ce mois-ci après qu'il a été révélé qu'une personne avait la citoyenneté canadienne et une autre citoyenneté néo-zélandaise. Il y a aussi le sénateur Stephen Parry. Les politiciens australiens ont montré leur cohérence et leur engagement à obéir les lois et règlements qui interdisent aux membres du Parlement et aux représentants du gouvernement de la double nationalité. Bien qu'ils ne soient pas impliqués dans l'élaboration de la loi, ils la respectent et y obéissent. La Haute Cour d'Australie applique systématiquement la primauté de droit s'il est prouvé qu'il y a des membres du Parlement qui ont servi dans un gouvernement à double nationalité. En tant que pays fondé à l'origine par des immigrés d'Europe, la double nationalité est la plus susceptible de se produire, car certains pays d'Europe occidentale imposent des règles de citoyenneté basées sur la ligne ou jus sanguinis. Jus sanguinis ou jus sanguinis sont des droits de citoyenneté obtenus par une personne sur la base de la nationalité de son père ou de sa mère biologique. Par conséquent, le cas de retraite des membres parlementaires ou des fonctionnaires en raison de la double nationalité ne peut pas être considéré comme une victime de conspiration politique. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les députés à double nationalité devraient d'abord examiner leur origine. L'ouverture de transmettre des informations qui permettent à toute personne ou tout média capable de découvrir l'arrière-fond des doubles origines de la citoyenneté d'avoir un impact sur la démission de ses fonctionnaires à l'avenir. L'impact définitif est sur la durabilité de la gouvernance. Si beaucoup sont démissionnés, le fonctionnement du gouvernement fédéral peut être perturbé. En outre, la composition du gouvernement et le soutien au Parlement peuvent également être perturbés. Le premier ministre Turnbull a subi ce problème parce que le soutien à son gouvernement n'était plus majoritaire. Plus de représentants du gouvernement se sont montrés impliqués dans la citoyenneté, cela pourrait alors devenir le déclencheur de nouvelles crises. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui,
le 17 novembre 2017. 17 novembre 1950, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, était couronné comme la tête de l'État tibétain. Tenzin Gyatso est le 14e Dalai Lama, le 5e enfant de 9 frères et sœurs de la famille paysanne, a été déclaré la réincarnation du 13e Dalai Lama à l'âge de 3 ans. Le 17 novembre 1950, il monta sur le trône à la tête de l'État tibétain au moment de l'occupation de la région par les forces de la République populaire de Chine. Après la défaite du mouvement de résistance tibétain en 1959, Tenzin Gyatso s'enfuit en Inde et établit le gouvernement tibétain en exil. Tenzin Gyatso a été le premier Dalai Lama à visiter le monde occidental. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix. Il a présenté sa démission officielle en tant que dirigeant politique au Parlement tibétain en exil à Dharamsala, en Inde, le 14 mars 2011. L'armée zapatiste de libération nationale est établie au Mexique le 17 novembre 1983. Après des débats assez rudes, une division interne au sein des partis et une vive opposition des syndicats, le Congrès américain ratifie l'ALENA. Les craintes portent sur les emplois dans les grands secteurs industriels tels que le textile ou l'automobile. Cet accord qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique instaure une zone de libre-échange entre ces pays tout en aménageant certaines restrictions. L'armée zapatiste de libération nationale était établie au Mexique. Le 17 novembre 2003, Arnold Schwarzenegger est élu le gouverneur de la Californie. Arnold Alois Schwarzenegger est un acteur, culturiste, homme politique républicain et entrepreneur qui a été le 38e gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Il a été élu le 7 octobre 2003 lors des élections accélérées en Californie en 2003 pour remplacer Gray Davis du poste de gouverneur. Schwarzenegger a été assermenté le 17 novembre pour assumer le reste du mandat de Davis jusqu'en janvier 2007. Schwarzenegger était à l'origine autrichien. Après avoir brièvement travaillé au Royaume-Uni, il s'installe aux États-Unis en 1968. Depuis 1983, il a la double nationalité américaine et autrichienne. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteur, voici donc la mise au point et pour le titre, le président Joko Widodo demande à l'Union européenne de stopper la discrimination à l'égard des produits de palmier à huile. Le président Joko Widodo a demandé que la discrimination contre le palmier à huile dans l'Union européenne soit immédiatement arrêtée. Un certain nombre d'attitudes et de politiques jugées préjudiciables aux intérêts économiques endommagent l'image des pays producteurs d'huile de palme doivent également être éliminées. La demande a été présentée par le président Joko Widodo à l'occasion de la commémoration de 40 ans de la coopération du partenariat ASEAN-Union européenne qui s'est tenue à Mani, aux Philippines, mardi 14 novembre. Lors de prononcer son discours, le président Joko Widodo a déclaré que beaucoup de gens faisaient de la terreur sur la croissance de la production d'huile de palme dans les pays de l'ASEAN. Selon le président, la résolution parlementaire de l'Union européenne et un certain nombre de pays européens sur le palmier à huile et la déforestation, ainsi que les campagnes noires, ne désavantagent pas seulement les intérêts économiques, mais aussi endommagent l'image des pays producteurs d'huile de palme. Pourtant, ce secteur soit très proche des efforts de réduction de la pauvreté. Il réduit l'écart de développement ainsi que le développement économique inclusif. Le président Joko Widodo a expliqué qu'il y avait actuellement 17 millions d'Indonésiens dont la vie, directement ou indirectement, est liée au palmier à huile. Jusqu'à 42% de la production d'huile de palme est également produite par les petits agriculteurs dans les zones rurales. La déclaration du président Joko Widodo est également entièrement soutenue par le premier ministre malaisien Najib Razak. À la même occasion, le premier ministre Najib Razak a déclaré que la discrimination contre l'industrie de l'huile de palme avait désavantagé plus de 600 000 petites plantations en Malaisie. L'Indonésie et la Malaisie sont les pays producteurs de l'huile de palme dans le monde. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie comprend l'importance des questions de durabilité et de palmier à huile. Des politiques liées à la durabilité ont été élaborées, y compris des systèmes de gestion durable des plantations d'huile de palme et des industries d'huile de palme en Indonésie. Les produits d'huile de palme brute ou CPO connaissent actuellement 187 obstacles non tarifaires et produits dérivés de CPO subissent 171 obstacles non tarifaires dans les pays partenaires commerciaux d'Indonésie. Auparavant, en mars 2017, le Parlement de l'Union européenne a mentionné que le palmier à huile avait endommagé l'environnement. Elle était produite par la conversion de forêts naturelles et de tourbières, si bien que cela cause des incendies récurrents. Le gouvernement indonésien a ensuite transmis une note de protestation sur l'attitude du Parlement de l'Union européenne. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
La Belgique intensifie actuellement ses coopérations avec l'Indonésie dans divers secteurs. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, Patrick Herman, lors de la commémoration de la fête de Roi Belge à la résidence de l'ambassade belge à Jakarta jeudi 16 novembre 2017. Dans son discours, l'ambassadeur a déclaré que l'une des coopérations actuellement concentrées par la Belgique est l'enseignement supérieur.
We have been focusing very much on cooperation with universities.
Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la coopération avec les universités, entre les universités et aussi avec Ristek Dikti. Au cours des derniers mois, un certain nombre de nos universités deviennent en Indonésie et pour faire un projet avec les universités indonésiennes. L'ambassadeur Patrick Herman a ajouté que de nombreux étudiants indonésiens sont venus en Belgique par du programme LPDP du ministère indonésien des Finances. En outre, dans le domaine de l'éducation et de la santé, la Belgique échangeait des informations médicales avec des hôpitaux indonésiens. Dans son discours, l'ambassadeur attend la coopération dans la recherche et la technologie avec l'Indonésie. L'agent d'études et de développement des politiques du ministère des Affaires étrangères a tenu le 27e atelier sur le conflit potentiel dans la mer de Chine méridionale du 15 au 17 novembre 2017 à l'hôtel Borobudur, Jakarta Central. Cet atelier est une initiative de l'Indonésie pour explorer les opportunités de coopération entre les parties impliquées à travers un mécanisme de dialogue. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Abdurrahman Mohamed Fahir a ouvert l'atelier le 16 novembre 2017. Dans son discours, M. A.M. Fahir, l'Indonésie estime que le potentiel de conflit dans la mer de Chine méridionale peut être atténué par la coopération entre les parties concernées. L'Indonésie est très active pour faire face aux problèmes grâce à la création de forums locaux.
Indonesia believes the South China Sea region must be managed.
L'Indonésie estime que la région de la mer de Chine méridionale doit être gérée par l'intermédiaire des coopérations entre les parties impliquées afin d'atténuer les tensions. C'est pourquoi l'Indonésie est très active dans l'incident pour résoudre le problème à la fois par le biais de la première piste et du forum à une et demi-piste. En effet, l'atelier a joué un rôle important dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les participants à travers des dialogues constructifs et des projets concrets. Selon A.M. Fahir, l'Indonésie veut apporter le potentiel de conflit de devenir une coopération dans divers projets. Cette année, il y a 8 projets des pays concernés. Ceci, bien sûr, aide l'Indonésie à faire des efforts et s'engager depuis le début à faire de la région maritime du sud de la Chine comme région pacifique stable et donner l'avantage économique. Le 27e atelier depuis 1990 s'est tenu de manière cohérente sous la forme d'une demi-piste suivie par 70 participants provenant de l'universitaire, des chercheurs et des équipes de thèse. Les participants viennent de Brunei Darussalam, de la République populaire de Chine, des Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, le Vietnam et la Chine Taipei. Le vice-gouverneur de Jakarta, M. Sandiaga Salahuddin Uno, représentant du gouvernement provincial de Jakarta jeudi, a assisté au Forum de coopération de l'investissement, Forum mondial de l'investissement de Dubaï, les Émirats arabes unis. Selon Sandiaga Uno, il est pour la première fois que la coopération de l'investissement de Dubaï invite les dirigeants locaux de l'Indonésie. Il est devenu un conférencier dans ce forum et dans un communiqué de presse vendredi à Jakarta, il a déclaré qu'il parlait des opportunités d'investissement en Asie. Lors du forum, il a expliqué que Jakarta était une destination d'investissement potentiel en Asie. Il a transmis plusieurs choses sur le forum, telles que le développement du tourisme à Kepulauan Seribu, les transports en commun et le secteur immobilier basé sur le Transit Oriented Development. Selon Sandiaga Uno, beaucoup de parties qui sont intéressées à investir à Jakarta. La coopération de l'investissement du Forum mondial de l'investissement de Dubaï est l'un des principaux forums économiques et d'investissement dans le monde. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Institut d'évaluation des aliments, des drogues et des cosmétiques du Conseil indonésien des aliments, ou LPPOMMOI, a déclaré que les normes halal de l'Indonésie ont été acceptées dans de nombreux pays. Lukmanul Hakim, le directeur de LPPOMMOI, dans la réunion de cette institution et les entreprises orientées halal, a déclaré jeudi à Jakarta que 20 pays ont accepté le standard halal de l'Indonésie. Selon lui, il devient une occasion commune d'augmenter le commerce halal de l'Indonésie. Il invite les hommes d'affaires à superviser les produits halal d'Indonésie d'entrer dans le commerce international. Lukmanul Hakim a déclaré que la Russie avait demandé des produits halal indonésiens. Il est optimiste que l'exportation des produits halal peut augmenter le bien-être des gens. Selon lui, l'augmentation ne supprime pas l'identité originelle de l'Indonésie en tant que nation religieuse. L'Indonésie est toujours une destination d'investissement pour les hommes d'affaires étrangers qui veulent investir leur capital pour l'expansion des entreprises parce que l'Indonésie est soutenue par l'énorme potentiel de commerce. L'Indonésie possède une structure industrielle profonde, de sorte que la chaîne d'approvisionnement peut bien fonctionner. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, lors d'une visite de travail à PT Jogja Precision Technikatama Yogyakarta. Dans un communiqué de presse mercredi, il a déclaré que le gouvernement indonésien se concentre sur la création d'un climat propice à l'investissement avec diverses mesures stratégiques, telles que l'émission du paquet de politique économique pour faciliter les affaires dans le pays. Sur la base du rapport annuel publié par la Banque mondiale lié au classement de facilité de faire des affaires de 2018, facilité de classement des affaires de l'Indonésie en 2018 a augmenté 19 classements et la 91e position à la 62e position de 190 pays étudiés. Erlangga Hartarto estime que la hausse des notations encouragera les hommes d'affaires à accroître leur investissement dans ce pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Kalimantan Est. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. À Bontang, en province Kalimantan Est, se trouve une île magnifique appelée l'île Beras Basah, soit l'île Duri Humide, est une petite île située dans le détroit Makassar, en province Kalimantan Est. Administrativement, l'île est sous le gouvernement de la ville Bontang, Kalimantan Est. Cette belle île est maintenant une destination pour les amateurs de plongée et de plongée en apnée. Selon le folklore local, l'origine du nom Duri Humide vient du mot ri et humide. Il était une fois des navires appartenant au sultanat Kutai qui naviguaient dans le détroit Makassar. Le navire transporte de la nourriture qui est parmi eux du riz. Mais soudainement, le navire a coulé et a renversé les bagages. Puisque les eaux sont peu profondes, alors le vaisseau congénital, qui est en grande partie le riz, n'est pas noyé, mais apparaît comme un monticule. Au fil du temps, le monticule du riz s'est transformé en une île de sable blanc comme le riz qui est toujours humide parce qu'il est entouré par l'océan. L'île Beras Basah est d'environ 5 hectares. Sa beauté est indiscutable. Plage de sable propre blanc avec de l'eau bleue turquoise, plus de cocotiers dispersés dans certains endroits pour être une ombre confortable pour se détendre. Sur l'île est disponible les belvédères, les vestiaires, toilettes, estampes. Mais pour les installations d'eau, vous devez toujours payer 5000 rupiah pour un jerrycan. Sur l'île Beras Basah, vous pouvez également jouer à bateau banane et d'autres activités. Pour louer un bateau banane, vous devez payer 100 000 rupiah. De nombreuses activités peuvent être faites sur l'île Brasbassa, comme la pêche. Pour ceux d'entre vous qui aiment la beauté de la mer, vous pouvez essayer la plongée et la plongée en apnée. Vous pouvez également explorer la plage. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez trouver des animaux marins comme l'oursin, le calmar et le concombre de mer. Sur cette île, vous pouvez également jouer au beach volley car les installations sont disponibles ici. Pour se rendre à l'île Brasbassa, qui est environ 220 km du centre-ville de Balikpapan, vous pouvez utiliser un véhicule privé ou un bus AC avec le coût par personne 100 000 rupiah. Puis de Bontang, le voyage continue vers Bontang Kuala ou Port Tanjung Laut. De ce quai, vous pouvez monter le bateau à l'île Brasbassa avec le coût par personne 40 000 rupiah. Ou vous pouvez également louer un navire avec une capacité de 10 personnes avec une redevance de location de 400 000 à 500 000 rupiah par navire. À l'île Brasbassa n'est pas encore disponible l'hébergement ainsi que des restaurants. Si vous voulez rester, vous pouvez louer un logement existant et le centre-ville Bontang. Et si vous visitez cette île, n'oubliez pas d'apporter suffisamment de nourriture ou de boissons. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre le programme de petits médecins compétents de la nutrition de la version numérique. Serviteur, l'éducation sur la nutrition n'est pas seulement nécessitée par des adultes mais aussi importante d'être enseignée et comprise par les enfants à un âge précoce. Par conséquent, l'Association indonésienne des médecins en nutrition médicale, ou PDGMI, fournit des connaissances sur la nutrition à travers le programme de petits médecins compétents de nutrition, des KMG, aux élèves des écoles primaires. Secrétaire, le programme de petits médecins compétents de nutrition MAHIR est un programme créatif d'une entreprise laitière indonésie lancée en 2008. En 2010, ce programme s'est développé. À cette année, l'Association indonésienne des médecins de nutrition médicale ou PDGMI, en coopération avec le ministère indonésien de l'éducation et de la culture, cela est démontré par le don de l'éducation sur la nutrition, la santé et l'hygiène personnelle pour les élèves des écoles primaires, les enseignants et leurs parents. Selon le vice-président de la direction centrale de PDGMI, le spécialiste de la nutrition du Clinique Justina, Annie Indriastuti, à travers ce programme, les élèves des écoles primaires devraient mieux comprendre l'importance de la nutrition et propager l'éducation nutritive aux personnes environnantes. Depuis qu'il a été introduit pour la première fois, le KMJ a atteint 5160 petits médecins compétents de la nutrition d'environ 2105 écoles primaires dans 38 villes à Sumatra jusqu'à la Papouasie. Sur le temps, en 2016, le programme de DKMG est différent avec le programme auparavant. Cette année, le programme est présent dans le domaine numérique à travers le site de www.fortigroup.denco.co.id qui a lancé officiellement le 3 août 2016. Ce programme vise à fournir des facilités pour les étudiants et les enseignants qui sont principalement dans la région qui a entravé les facteurs géographiques. Par ailleurs, afin que ce programme puisse atteindre beaucoup d'étudiants, les enseignants et les parents à tout l'Indonésie. Ce programme est destiné aux élèves des écoles primaires de grade 4 ou 5 et chaque DKMZ doit former une équipe de 4 personnes. L'enseignement fournit entre autres d'enseigner comment des enfants bien nourris les connaissances sur la nutrition, les sources d'énergie, des substances de régulation et des substances adjuvantes, la planification des repas nutritifs, la mesure de l'état nutritionnel et les pratiques de conseil nutritionnel aux façons sur le choix de collations saines et sécurisées. Le programme de DKMG pourrait générer des agents de changement qui peuvent fournir un impact positif lié à la nutrition, la santé et l'hygiène personnelle afin de réaliser l'avenir des enfants indonésiens plus sains. Serviteur, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Serviteurs dans le monde entier, bonsoir. Voici donc le magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons de la communauté de Sulawesi du Nord. Donc, restez avec nous. Le service international de RRI, La Voix de l'Indonésie, que vous pouvez écouter par longue courte à 9525 kHz par diffusion en direct sur www.voe.co.id ou par l'application sur RRI Play. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson traditionnelle de Sulawesi du Nord intitulée Esamokan. Bonne écoute.
Hey.
Serviteur, vous venez d'écouter une chanson intitulée Essa Mokan, chantée par Nova Sonda. C'est une chanson de la communauté de Minahasa, Sulawesi du Nord, qui est créée par Trad. Ces chansons parlent d'une demande de quelqu'un à son amant dans le parole suivant, Teamo Madua Dua Genang Ekaria, qui signifie amant, vous ne trichez pas. Cette parole est une expression et espère quelqu'un à son amant pour que son amant ne triche pas ou n'aime pas les autres. La chanson entre le Essa Mokan qui est chantée par Nova Sonda est accompagnée par le Kolintang. Kolintang est l'instrument à percussion fabriqué à partir de bois de la région de Minahasa, Sulawesi du Nord. Serviteur, pour la chanson suivante, vous pouvez écouter la chanson intitulée Oinani Keki. Bonne écoute. Comme la chanson précédente, Oinani Keke est aussi une chanson de la communauté de Minahasa, Sulawesi du Nord. Inani Keke signifie oh, la mère de Keke. Keke est un appel cher pour les filles de Minahasa. Cette chanson est une conversation entre deux personnes. Ces paroles racontent l'histoire du voyage d'une mère à Manado ou Wenang en Minahasa pour acheter un gâteau. Il y a aussi un enfant qui a demandé le gâteau à sa mère. Malheureusement, le gâteau est épuisé. Cette chanson était chantée avec l'accompagnement de la musique de Kolintang. Chers amis, voici la dernière chanson intitulée « Sipatokaan ». C'est une chanson de Minahasa qui est très populaire, même une chanson obligatoire dans les écoles. Les paroles de cette chanson sont sous la forme de pantoun. Cette chanson raconte du conseil d'une mère à son fils qui ira à l'étranger. La mère espère que son enfant restera prudent et prendra bien soin de lui-même. La musique est arrangée de manière plus moderne. Serviteur, merci de votre attention. Nous nous retrouvons à une autre occasion dans l'émission du magazine musical. Voici donc la dernière chanson intitulée « Sipatokaan ». Bonne écoute.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.